soir, les forces armées de la RDC ont repris le contrôle des 105 localités occupées jadis par la rebelle rwandais de FDLR au sud et au nord Kivu. C'est ce qu'a annoncé mardi dernier le commandant de la 3e zone de défense de l'armée congolaise. C'était lors de la présentation du bilan à mi-parcours des opérations lancées contre les combattants rwandais depuis le 29 janvier dernier. Le général Léon Mouchalet indique aussi que les militaires congolais ont neutralisé 237 rebelles FDLR, dont 13 tués. Quel le tir faire de ces bilans? Nous en parlons avec Julien Paloukou, il est gouverneur de la province du Nord Kivu. Bonsoir, monsieur le gouverneur Julien Paloukou. Voilà, il va nous rejoindre. Professeur Arsène Mouaka, il est député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Bonsoir, professeur Arsène Mouaka.
Bonsoir, Guy Mathieu.
Et Descartes Mpongé, il est président de la société civile du Sud Kivu. Bonsoir, Descartes Mpongé.
Bonsoir, Guy Mathieu. Bonsoir à tous.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Bilan à mi-parcours des opérations de désarmement forcé des rebelles FDLR, opération lancée depuis le 27 janvier dernier dans les deux provinces. Une trentaine de localités jadis occupées par les FDLR au sud et au nord Kivu ont été récupérées par les FRDC et au moins 237 combattants neutralisés, dont 13 tués. Bilan livré officiellement aux médias par le commandant de la 3e zone de défense des FRDC, le général Léon Mouchalet. Bernardin Nyangui pour les détails.
Au moins 21 localités du Sud Kivu et 14 dans la partie sud du parc national de Virunga au Nord Kivu ont été récupérés, dit le général Mouchalet. Sur les 237 combattants FDLR neutralisés, 13 ont été tués. Il parle aussi de 85 armes lourdes et légères et plusieurs munitions récupérées, 4 casiers incendiés, 2 civils tués et un autre blessé. Le général Mouchalet n'a donné aucun bilan du côté FRDC. Il affirme toutefois que l'armée se comporte bien jusque-là et reste déterminée à éradiquer les FDLR. Général Léon Mouchalet.
Nos forces sont une armée respectueuse du droit international humanitaire. C'est la raison pour laquelle il y a eu un faible taux de tués parmi les FDLR. Et les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées donc à éradiquer l'ennemi FDLR et qui s'y a un cap que la population dénonce.
D'après le commandant de la 3e zone de défense qui regroupe le Nord Kivu, le Sud Kivu et la province orientale, sur les 1200 combattants FDLR estimés au départ, au moins 575 combattants et 346 de leurs dépendants ont été neutralisés depuis la phase de reddition volontaire jusqu'au désarmement forcé. Les FDLR capturés n'ont toutefois pas été présentés aux médias. Goma, Bernardin Nyangui, Radio Okapi.
Je n'ai pas beaucoup, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Oui, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu, 35 localités reconquises, 237 combattants neutralisés, dont 13 tués. Comment analysez-vous ces bilans établis par les commandants de la 3e zone de défense des FRDC?
Oui, c'est d'abord un sentiment de satisfaction. Comme vous le savez, la nébuleuse FDLR a fait parler d'elle depuis de longues années. Si aujourd'hui l'armée congolaise commence à produire ces résultats-là, à traquer, à tuer, à récupérer des localités, c'est une très très bonne nouvelle pour la population du Nord Kivu. Mais peut-être pour ceux qui ne le savent pas, la nébuleuse FDLR se présente presque sous trois formats. Il y a les FDLR qu'on appelle FDLR Foka, qui sont presque opposés au régime de Kigali et qui militent pour la récupération du pouvoir par la force. Il y a la deuxième branche qui est constituée de FDLR qu'on appelle RUD, que nous supposons être une création de forces obscures externes à la RDC pour essayer un peu de surveiller les FDLR FOKA. Et malheureusement, la troisième catégorie des FDLR, ce sont ce qu'on appellerait les FDLR congolais entre guillemets, c'est-à-dire les enfants du Nord Kivu, Massissi, Rutshuru, qui se sont alliés à ces forces rebelles pour des motifs inavoués. Alors aujourd'hui, lorsque l'armée est en train de mener les opérations, elle se bute à cette complexité que je viens de présenter tout à l'heure. S'agit-il de FDLR Foka? S'agit-il de FDLR Rude? S'agit-il de FDLR entre guillemets congolais? Et voilà la grande question à laquelle est butée notre armée. Et ces trois catégories, on peut ajouter une quatrième, elle est constituée effectivement des réfugiés rwandais qui sont encore présents sur le sol congolais. Depuis 2013 en 2014, on a pu, grâce au HCR, initier une enquête pour essayer un peu de recenser les réfugiés civils congolais qui sont encore présents sur le sol congolais, particulièrement au Nord Kivu. Ça va surprendre beaucoup de gens. On a trouvé des chiffres très alarmants. C'est autour de 199 000 réfugiés rwandais qui sont encore présents au Nord Kivu. Alors, cette complexité-là fait que l'armée a des difficultés, effectivement, de savoir devant quelle trappe de catégorie elle se retrouve pour devoir mieux évaluer l'action qu'elle est en train de mener sur le terrain. Je vous dis pédagogiquement que les gens comprennent effectivement cette complexité de la nébuleuse FDLR telle que je viens de la présenter tout à l'heure.
Oui, monsieur le gouverneur, vous avez parlé des trois formats FDLR, le FDLR Foka, le FDLR Rude, le FDLR congolais et les réfugiés rwandais, les civils rwandais qui sont chez nous, et ils seraient estimés à 199 000 réfugiés. Et vous dites que c'est cette complexité-là contre laquelle est buté, n'est-ce pas, les FRDC. Cela veut dire que les FRDC sont en train de se battre contre un ennemi qui ne maîtrise pas?
Non, je ne dis pas que les FRDC sont en train de se battre contre un ennemi qu'ils ne maîtrisent pas. D'ailleurs, cette liste que je viens de vous donner, cette énumération, cette classification des FDLR, eh bien, les FRDC l'ont. C'est cette compréhension-là qui permet effectivement à ce que les FRDC aillent le plus rapidement possible. La complexité que je voulais soulever, c'est effectivement le fait qu'il y a aussi certains fils congolais qui malheureusement se sont alliés à ces rebelles-là, comme un peu partout au Nord Kivu, je l'ai dit à Beni, je l'ai dit à Masisi, à chaque fois qu'il y a un groupe armé étranger, il se sert toujours de quelques fils et filles égarés de la République. Donc aujourd'hui qu'il y a ce bilan de près de 500 personnes, 500 FDLR qui sont neutralisées, nous pensons que dans les jours qui suivent, eh bien, plusieurs autres localités vont être sous contrôle des FRDC, parce qu'il y a des villages entiers dans les fins fonds de Masisi, dans les fins fonds de Walikale, et dans les fins fonds du Sud Lubero, qui hier étaient jadis sous contrôle de ces FDLR, qui percevaient taxes, qui percevaient impôts, qui faisaient tout. Donc je crois que les populations qui se voient aujourd'hui libérées sont très très contentes, car désormais ce sont les forces armées, les forces loyalistes qui sont en train de réoccuper ces espaces-là, qui depuis une vingtaine d'années étaient sous l'emprise des forces étrangères, particulièrement les FDLR sous le branche que je viens d'évoquer tout à l'heure.
Monsieur le gouverneur, nous rappelons que lundi 6 avril dernier, trois officiers FRDC ont été tués dans une embuscade tendue par des présumés FDLR à Mugando, en plein parc national de Virunga. Cela veut dire que trois mois après le lancement de ces opérations contre ces FDLR, ces rebelles continuent à, en fait, gardent toujours leur capacité de nuisance.
Oui, nous ne pouvons pas ne pas dire que les rebelles gardent la capacité de nuisance, parce que lorsque les opérations ont commencé, c'est comme si on a touché dans une ruche d'abeilles, où les abeilles sont dispersées, et à chaque fois qu'ils survolent ça et là, dans la nature, ils ne peuvent pas manquer à piquer quiconque ils trouvent sur leur chemin. C'est cette image que je donne pour signifier effectivement que les opérations contre les FDLR ne provoquent moins de conséquences sur les militaires, sur nos populations, parce que les FDLR savent que ce sont les commandants qui sont en train de planifier ces opérations. Ils estiment peut-être qu'en coupant la tête des commandants, eh bien les opérations vont stopper. Nous avons eu à échanger avec les commandants militaires, malgré ce qui est arrivé, malgré cette embuscade, malgré les pertes en vies humaines, nos forces armées sont déterminées à en finir une fois pour toutes avec cette nébuleuse. Eh bien, les actions qu'ils sont en train de commettre, on les appelle souvent, pour ceux qui ont des connaissances en matière de sciences de la santé, ce sont des derniers moments de lucidité de quelqu'un qui est presque en train de mourir. Et nous estimons que cela ne doit pas faire peur à notre armée, parce qu'elle est engagée à asseoir définitivement la paix, à permettre à ce que les populations vivent désormais des moments de gaieté, des moments de convivialité et des moments de stabilisation pour vaquer à d'autres occupations comme la relance économique de la région du Nord-Kivu.
Merci, professeur Hassène Mouaka. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Comment vous analysez ces bilans à mi-parcours de la traque contre les FDLR?
Oui, je voudrais, comme tout bon Congolais, féliciter notre armée pour les efforts qui sont déployés jusque-là et encourager notre armée à pouvoir nous dégager de ces mâles qui pratiquement pendant plus de 20 ans a sévi au nord Kivu, au sud Kivu et voire même au nord Katanga. Et donc j'encourage l'armée, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est la compassion à la population du nord Kivu et du sud Kivu qui a trop longtemps souffert de ces mâles. 20 ans, c'est beaucoup trop. Et la troisième chose, c'est que je voudrais souligner que le FDLR, c'est une réalité internationale. C'est, ce sont des réfugiés, c'est-à-dire ce sont des sujets du droit international. Et donc, c'est cela leur nature. Et je demeure convaincu que la solution à donner au FDLR a une dimension congolaise, c'est vrai, mais il y a une forte dimension internationale pour qu'on puisse espérer résoudre définitivement le problème. Or, il se fait ici qu'on est à face des opérations militaires et j'ai noté que notre gouvernement n'a pas souhaité être accompagné dans ces opérations malgré la disponibilité de la communauté internationale. Bon, je respecte la décision du gouvernement et je continue à espérer qu'il y a des explications à cela et que c'est peut-être nous qui n'avons pas des données suffisantes, mais je crois que la gestion transparente de la guerre exige que le gouvernement peut-être nous explique suffisamment pourquoi face à un problème qui a une grande dimension internationale, le gouvernement croit que la solution est uniquement nationale. Et donc, que ce soit même les opérations militaires. Et donc, j'ai ce sentiment. Maintenant, le bilan nous est présenté par l'armée. Et là encore, je félicite cet effort. Mais je pense qu'une guerre comme celle-là, puisqu'il s'agit bel et bien d'une guerre, nous sommes en face de forces étrangères qui ont envahi notre territoire national. Certaines localités, heureusement que maintenant nous savons qu'ils pouvaient occuper jusque plus de 30 localités. Maintenant, ça s'est dit ouvertement.
C'est quand même étonnant, hein, professeur, c'est important de vous couper. Je rappelle ici que vous avez mené des études sur l'activisme des groupes armés dans l'est de la RDC. Comment peut-on comprendre que ces rebelles occupent pendant plusieurs années, pendant plus de 10 ans, un vaste territoire, plus de 35 localités? Et ce n'est pas tout, ça, c'est là où ils ont été délogés, mais ils sont encore ailleurs. Comment on peut expliquer cela?
C'est une longue histoire, mais je peux le résumer en une simple maxime, peut-être, pour dire la logique, elle est simple. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi.
Donc, c'est là bien que cette logique se sont constituées des fonds.
Exactement, depuis le régime Mobutu et tous les changements de régime qu'il y a eu, les FDLR ont joué à ces jeux qui consistent à voir à un certain moment, ils se retrouvent être alliés des régimes, à un autre moment, ils sont l'ennemi des régimes, alliés à telle milice ou à une autre, opposés à telle rébellion ou ennemis à telle autre rébellion. Et donc, il y a une succession historique qui fait qu'ils ont survécu dans ces jeux d'alliance où ils pouvaient s'allier soit à telle ou telle autre force, que je ne voudrais pas détailler ici, mais juste pour dire que c'est dans ces petits jeux d'alliance et de défection d'alliance qu'ils ont survécu. Et aujourd'hui, nous les retrouvons en face de notre gouvernement et notre gouvernement est en train de tirer sur eux et l'armée nous informe qu'ils pouvaient occuper jusqu'à 35 localités. Le gouverneur venait de souligner qu'ils percevaient taxes et impôts et autres. Je pense que le mal,
c'était un état dans un état.
Exactement. Le mal se dévoile maintenant. Et je pense que les Congolais sont informés pour savoir que bien des Congolais se sont retrouvés sous occupation. Et quand on est sous occupation, on ne doit pas dire qu'il y a des Congolais qui se sont alliés. C'est lui qui occupe les lieux, impose sa loi. Si vous voulez survivre, vous êtes obligé de faire sa volonté. Et c'est dans ce sens que vous retrouverez certains Congolais soi-disant alliés, mais qui se retrouvent obligés de collaborer avec l'occupant, c'est-à-dire qui peut être FDLR, qui peut être EDF dans le nord du Nord Kivu. Et donc, il ne s'agit pas des Congolais qui décident. C'est vrai qu'il peut y avoir des brigands qui sont des entrepreneurs de violence, ils existent aussi, mais je sais que le plus souvent on dit, voilà, le mal du Nord Kivu, c'est la population du Nord Kivu. Cela est généralement dû par le fait que on laisse longtemps la population être occupée par des rébellions étrangères, des milices nationales étrangères, de telle sorte que la population n'a pas d'autre choix que de s'accommoder. L'accommodation n'est pas une collaboration. On est obligé de vivre stratégiquement.
Ils le font par la force des choses.
Exactement.
Vous avez suivi le gouverneur Jeunet Paluku qui exprime sa satisfaction, n'est-ce pas, par rapport aux opérations telles qu'elles sont menées, mais il a évoqué, n'est-ce pas, une difficulté contre laquelle les FARDC sont butés, hein. C'est ces quatre composantes FDLR, il a parlé des FDLR FOCA, FDLR RUD, FDLR congolais et les réfugiés civils rwandais. Comment vous expliquez cela?
Je ne pense pas pour moi que ça peut être une difficulté, puisque la guerre est déclarée contre tous ceux qui s'appellent FDLR. Et donc, s'il se fait que les FOCA, les RUD et autres réfugiés s'avèrent être des FDLR, eh bien, ils sont la cible de notre gouvernement. Donc, notre gouvernement, en fait, notre armée, n'a qu'à faire son travail. Et moi, je ne vois pas à quoi ça peut être un problème. Il est vrai que certains réfugiés posent problème, puisque parfois, il se fait passer pour des Congolais. Et ça fait réellement problème et collabore avec l'ennemi. Mais je sais que les opérations sont lancées. Nous avons affaire à une armée des hommes qui ont été préparés, formés à de telles situations. Merci. Je ne pense pas que ce soit cette catégorisation-là qui fait problème pour dire il faut tirer sur le RID, il ne faut pas tirer sur le FOCA, et ainsi de suite. Tous ceux qui s'appellent FDLR, pour l'instant, le gouvernement leur a déclaré la guerre, et donc la guerre doit être faite, et je ne pense pas que ce soit réellement une difficulté.
Merci Descartes Pongué, président de la société civile du Sud Kivu. Comment vous réagissez au bilan à mi-parcours des opérations contre les FDLR au Sud et au Nord Kivu? Descartes Pongué, est-ce que vous pouvez bouger un peu? Là, on n'arrive pas à vous saisir.
La population est en train de dire là. Mais moi, je ne voudrais pas me verser dans la catégorisation qui est dangereuse du gouverneur du Nord Kivu. Parce qu'il y a des risques sérieux que les populations autochtones soient attaquées au nom d'une troisième catégorisation des FDLR congolais qui sont dissimulés. Moi, je pense l'analyse qui est faite par les députés qui est.
Descartes Pongué, est-ce que vous êtes dans une maison?
Oui.
Il y a possibilité de sortir?
Est-ce que vous me captez?
Allez-y, Descartes.
Je disais que moi, je ne veux pas me lancer dans cette catégorie d'actualité. Parce qu'au nom de cette troisième catégorie, on risque de tuer des populations civiles sous prétexte qu'elles sont des FDLR congolais qui collaborent ou qui... Au contraire, moi, je partage plus la réflexion du député qui pense qu'effectivement, il y a certaines personnes congolaises qui peuvent collaborer avec les FDLR sous contrainte quand ils sont pris en otage. Mais ce que je voulais poser ici, c'est que nous sommes là à la 40e opération de traque des groupes armés, principalement les FDLR. Je me rappelle peut-être qu'on est à la 6e opération. Voilà pourquoi nous, on était très sceptiques, mais comme c'était une décision souveraine, nous encourageons, nous saluons, mais nous ne voulons pas qu'on puisse rééditer les anciennes expériences. Surtout qu'aujourd'hui, la manière de conduire ces opérations inquiète la population.
Oui,
parce que là, l'impression c'est qu'on est en train de les disperser que de les attaquer, parce qu'on les enfonce dans la forêt, au lieu de les contenir, on les envoie à désormais du côté Kalemi, on les envoie du côté Nsisi, on les envoie du côté Shabunda, on les envoie du côté Minga, c'est une dispersion totale, et là où ils sont en train d'aller, il y a les sites miniers, avec comme conséquence, ils risquent encore de se préoccuper des activités minières pour survivre et peut-être réduire leur exploit.
Descartes et Pongé, si je vous ai bien compris, ces opérations permettent au FDLR de s'établir davantage en RDC.
Oui, parce que on pensait qu'on allait les acheminer du côté Rwanda, leur donner un couloir pour sortir du niveau vers le Rwanda, mais au contraire, on les disperse, on les enfonce plus dans la forêt congolaise, et c'est ce qui inquiète la population. Mais aussi, il y a tous ces villages qui ont été récupérés, c'est vrai, il y a plusieurs villages qui sont confirmés, mais n'est pas la société civile qui sont récupérés. Mais quelles sont les stratégies de sécurisation de ces espaces qui sont conquis par les FRDC? Parce qu'en principe, la police devait déjà suivre ou bien accompagner le travail qui est fait par les FRDC. On a eu dans deux ou trois villages des cas des attaques sporadiques après que les villages soient libérés. Donc il est important qu'on puisse tenir compte de cet aspect de la sécurisation des espaces qui sont conquis.
Oui, parce que vous avez parlé de la sécurisation des espaces conquis. Vous êtes au sud Kivu. Les localités qui ont été reconquises par les FRDC, est-ce que vous pensez que la paix est revenue dans ces localités?
Non, la paix n'est pas revenue d'abord. Il y a d'abord plusieurs réfugiés qui demandent assistance. Et les questions c'est qui?
Allô, Descartes Pongé? Ça ne va pas. Oui, votre ligne s'est détériorée. On vous rappelle, hein, Descartes. Monsieur le gouverneur, nous allons prendre pour vous cette question qui vous est adressée. Hein. Elle vient du sud Kivu, de Bukavu au sud Kivu.
Bonjour, Bame de Bukavu au sud Kivu. À y regarder de près, le bilan à mi-parcours des opérations de FRDC lancées contre les FDLR n'est pas satisfaisant dans la mesure où, au lieu de bouter les FDLR hors du territoire national, les FRDC ne font que les repousser davantage dans les fonds du pays. Je pense qu'en finir une fois pour toutes avec le phénomène FDLR nécessiterait leur rapatriement au Rwanda. Encore faudrait-il convaincre le président Kagame à cet effet. Sinon, ces opérations de FRDC ne seraient que de la peine perdue.
Oui, monsieur le gouverneur Julien Paloukou.
Oui, bon, moi je ne pense pas que l'on dise que l'armée ne fait rien, parce qu'on regarde les localités qui ont été reconquises par nos forces armées, je crois qu'il y a un travail qu'il faut louer. La bravoure des forces armées n'est plus à démontrer. Lorsqu'on parle des localités conquises, c'est que l'opinion doit savoir que les FDLR n'ont pas existé comme une force isolée à l'est de la RDC, particulièrement au nord Kivu. Il y a eu coexistence de plusieurs forces. Il y a eu les FDLR, il y a eu les éléments du CNDP, il y a eu les éléments du M23, il y a eu des Maïmaï. Nous avions eu 23 groupes armés au nord Kivu lorsqu'il a été organisé la conférence sur la paix, la sécurité et le développement des provinces du nord Kivu et du sud Kivu. C'était en janvier 2008. Donc les gens doivent comprendre que c'est dans cette complexité-là qu'aujourd'hui on est en train de s'attaquer à la problématique FDLR parce qu'au moins on a réduit la capacité de nuisance du CNDP qui a totalement disparu, on a réduit la capacité de nuisance du M23 qui a totalement disparu, au moins sur son format apparent, on a réduit les groupes armés qui se sont les uns nués à éléments des forces armées, d'autres qui ont regagné la vie civile. Et aujourd'hui, maintenant, nous avons en face de nous cette nébuleuse-là qui est restée et contre laquelle les forces armées sont en train de lutter. Donc, dire que rien n'est fait, on les enfonce bien sûr davantage dans nos forêts, c'est quand même jeter un peu de la poussière sur le travail combien louable qui est salué par nos populations qui vivent là où les FDLR étaient des maîtres de terrain. Il y a des lieux les plus reculés dans Walikale, dans Massissi, dans le sud de Lubero, où des gens n'avaient jamais vu l'autorité de l'État. Et aujourd'hui, nos forces armées permettent de nouveau la restauration de l'autorité de l'État et nous devons les saluer. Maintenant, est-ce que c'est la fin? Est-ce que faudra-t-il nous arrêter à mi-chemin? Moi, je crois non. Il faudrait que la population congolaise prête main forte à nos forces armées pour qu'on vienne à bout de cette cette force négative et que vraiment, là, si elle n'est pas neutralisée totalement, mais au moins que les gens rentrent chez eux. Je dois vous dire qu'avec les opérations militaires qui sont menées, maintenant on est en train de recenser des statistiques des réfugiés qui rentrent au Rwanda depuis le mois de janvier jusqu'en avril 2015. Nous venons de rapatrier avec la Commission nationale pour les réfugiés 820 Rwandais qui se font passer pour des réfugiés. Nous pensons que tout ça, c'est la pression exercée sur les offres de l'air qui fait qu'aujourd'hui, on commence à récupérer certains qui se font passer pour des réfugiés et qui rentrent au Rwanda par le canal de la Commission nationale pour les réfugiés appuyé par les HCR. C'est donc là les paquets ou les packages que les gens doivent comprendre dans cette lutte que la RDC a engagée contre ces forces négatives.
Monsieur le gouverneur, vous avez suivi le professeur Arsène Mwaka qui estime que les FDLR ce sont des sujets du droit international et que donc la solution n'est pas que nationale. Vous avez suivi récemment le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, ainsi que le patron de la MONUSCO, M. Martin Kobler, qui ont exprimé les vœux, n'est-ce pas, de voir cette coopération entre FRDC et MONUSCO reprendre, n'est-ce pas, dans ces opérations contre les FDLR. Comment vous analysez ces souhaits?
Oui, il est vrai, la question des FDLR est internationale parce que la traversée de ces réfugiés a été sous la barbe de la communauté internationale pour nous amener, nous, peuple congolais, zaïrois à l'époque, à devoir accepter un peuple en détresse de traverser les frontières. Maintenant qu'aujourd'hui cela devient un problème contre nous, contre notre population, contre notre politique, le gouvernement a décidé de devoir prendre en charge militairement cette question. Cela n'empêche pas, cela ne fait pas éviter à ce qu'au niveau international, il y ait des démarches qui cherchent à trouver autrement des solutions à la question. Quant à la collaboration entre les forces armées et la MONUSCO, je ne vais pas entrer dans la polémique, parce que vous vous rappelez, lorsque la décision avait été prise par les autorités congolaises, c'était à la suite des officiers qui avaient été reconnus comme ayant perpétré quelques violations, ça et là, alors qu'il n'y a aucun rapport qui était mis à la connaissance des autorités congolaises. Donc, cette polémique-là, je crois qu'elle est en train de trouver de la solution, parce que j'ai eu des contacts avec les autorités de la MONUSCO qui nous ont clairement indiqué qu'il y a des discussions entre la MONUSCO et les autorités politiques congolaises pour que la reprise de la coopération entre les forces armées et la brigade d'intervention ainsi que d'autres forces se fasse sans beaucoup de heurts. Et je crois que les jours qui viennent vont devoir nous révéler les secrets de ces pourparlers qui ont lieu depuis quelques jours entre les forces des Nations Unies.
Merci.
Et à travers Martin Kobler et les autorités congolaises.
Merci. Professeur Arsène Mwaka, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Beni, au Nord Kivu.
Dira Kambale Kazingoufou, j'appelle de Beni, en province du Nord Kivu. L'expérience à l'Est nous a prouvé que récupérer les localités jadis assiégées par les rebelles, par nos FARDC, est une chose, et sécuriser les dites localités en est une autre. La joie manifestée par la population de Beni, ville et territoire, à l'annonce de la reprise de l'espace qui était contrôlé par les ADF, n'avait-elle pas tourné en cauchemar en peu de temps? Je pense que le commandant de la troisième zone de défense devrait s'atteler beaucoup plus sur la stratégie qui pourra assurer que la paix sera désormais durable dans ces zones conquises. Sinon, ça sera aussi une victoire éphémère et utopique comme celle que nous vivons à Beni, ville et territoire, où tout peut arriver à n'importe quel moment.
Voilà, c'est il soulève là la problématique de la sécurisation des zones reconquises.
Oui, je voudrais dire à Gérard Kazingoufou que je pense qu'il faut y aller étape par étape. Nous sommes d'abord dans l'étape de la conquête. Il faut reconquérir des localités qui étaient contrôlées par des FDLR. Et maintenant, le conseil qu'il donne au commandant de la troisième zone de défense, je crois qu'il vaut tout son pesant d'or dès lors qu'il y a déjà un antécédent avec les IDF à Beni. Et donc, je ne pense pas qu'il déconne, mais je pense que pour l'instant, il faut que l'armée reprenne les localités, quitte à gérer la suite, fort de l'expérience des IDF à Beni. Mais je voudrais quand même dire que la population doit soutenir notre armée. Il est important.
Et justement, que la population... vous revenez des vacances parlementaires au Nord Kivu. Comment la population juge ces opérations?
La population est prête à soutenir notre armée et elle a besoin de voir que le soutien politique aussi existe, que les militaires soient pris en charge comme ils étaient bien pris en charge dans les opérations précédentes. Je pense que le mariage entre l'armée et la population a été refait, particulièrement à partir des opérations de Rutshuru. Et donc il est question pour nous qui sommes politiques de pouvoir pousser au niveau central pour que ce mariage ne puisse pas se rompre. Et cela passe par des bonnes conditions à donner à l'armée et des bonnes dispositions à prendre pour violer le moins possible le droit de l'homme.
Vous avez suivi le général Mouchalé qui estime que les militaires congolais jusque-là se comportent convenablement.
Et oui, c'est son appréciation. C'est son appréciation et je pense que ce n'est pas le temps de faire la polémique. On est encore sur la ligne de front. Nous encourageons l'armée, nous encourageons le général Mouchalé à veiller à ce que l'armée puisse respecter les droits de l'homme.
Vous avez suivi Descartes Mpongé, qui est président de la société civile du Sud Kivu, qui a, lui estime que ces opérations telles qu'elles sont menées permettent aux FDLR de pouvoir s'établir davantage sur le territoire congolais.
Non, je pense que les FDLR ont connu quand même des étapes. Il y a eu des moments où les FDLR vivaient dans le fin fond de la forêt. Et à un autre moment, ils sont rentrés dans des localités qui sont périphériques aux villes. Et donc, pour l'instant, on les remet peut-être dans l'étape des forêts. Et je souhaite que notre gouvernement prenne des dispositions pour s'en occuper et s'en occuper jusqu'au dernier retranchement. Sinon, nous allons refaire la même chose. Mais je sais que peut-être ce qu'il faut pouvoir souligner, c'est que les dégâts collatéraux sur les populations soient minimisés, puisque chaque jour qui passe, il y a quand même le grand banditisme et le petit banditisme qui reprend dans des localités qui étaient jadis occupées par ces FDLR, vrai ou faux. Mais je pense que la guerre est déclarée contre les FDLR, qu'ils soient des vrais ou des faux. Nous n'avons pas à leur poser des questions s'ils sont de quelle catégorie, s'ils s'appellent FDLR. Je pense que la guerre leur est déclarée et la guerre sera aisée tant que nous penserons qu'il ne faut pas distinguer sur la ligne de front. Et donc, personnellement, en tant que député national, j'encourage la population à collaborer et j'encourage les responsables de l'armée à veiller à ce que la population demeure sécurisée quand eux sont en train de mener des opérations.
Merci, Descartes Mpongé. Nous avons une question qui vous est adressée. Hein. Il vient de Kolwezi au Katanga.
Professeur Ignace Ndala, depuis Kolwezi au Katanga, tout en encourageant nos troupes, je voudrais cependant rappeler que la paix n'est pas le nombre d'ennemis tués et ceux arrêtés, mais bien l'absence des troubles dans une contrée.
Allô, Descartes Mpongé? Voilà, apparemment, nous l'avons encore perdu. Professeur Arsène Mwaka, c'est M. Ignace Ndala de Kolwezi qui dit, tout en encourageant nos troupes, je voudrais cependant rappeler que la paix n'est pas le nombre d'ennemis tués ou ceux arrêtés, mais l'absence de troubles dans une contrée.
Bon, je crois que chacun peut définir sa paix. Lui, il a défini sa paix, mais je pense que nous qui avons vécu ces événements, dès qu'un ennemi, un des ennemis, est mis hors d'état de nuire, c'est une participation à un effort de pacification. Et nous devons saluer cela. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est la paix définitive. Peut-être il faudrait qu'on ajoute l'adjectif. Ce n'est pas la paix définitive. Et je voudrais rebondir peut-être sur ce que Mpongé a dit quant à la catégorisation des FDLR entre guillemets congolais. Juste pour dire que ça ne doit pas constituer une occasion de malmener et de déporter des populations du Nord Kivu vers Kinshasa, comme s'il n'y avait même pas de tribunaux au Nord Kivu. Je crois que ce phénomène de déportation des populations du Nord Kivu, sous prétexte ou parfois en réalité quand ils sont impliqués dans les forces négatives, je pense que c'est quelque chose qui est en train de nous faire très très mal et qui fait très très mal à la population du Nord Kivu, où des cinquantaines de gens sont dans des géoles, des cachots, en dehors, loin de leur juge naturel, et déportés comme cela, et quand ils sont libérés, ils sont relâchés, ils ne savent pas comment rentrer, ainsi de suite. Je pense que ça ne va pas. Le Nord Kivu a des coups, cours, à des tribunaux, à le parquet, à des tribunaux militaires. Je pense que s'il y a des catégories qui sont soupçonnées de collaborer avec l'ennemi, il est bon qu'on crédibilise toute la justice congolaise et qu'on les laisse juger au Nord Kivu plutôt que de les laisser croupir dans des cachots, parfois des services qui n'ont rien à voir avec la justice.
Dikate Pongé.
Oui, allô?
Vous êtes en ligne, voilà. Vous avez suivi la réaction, la question qui vous a été adressée?
Je n'ai pas suivi.
Voilà, c'est Ignace Ndala de Kolozi au Katanga qui dit, tout en encourageant nos troupes, je voudrais cependant rappeler que la paix n'est pas le nombre d'ennemis tués et ceux arrêtés, mais l'absence de troubles dans une contrée.
Oui, en fait, c'est ce que nous disons. C'est vrai qu'il y a cette volonté. Nous tous, nous soutenons, et d'ailleurs la société civile du Sud Kivu collabore très bien, les collègues aussi du Nord Kivu avec notre armée, en termes de formation et de sensibilisation. Mais le problème, c'est que je ne suis pas d'accord avec la théorie qu'on est en train de les pousser dans la forêt, loin des villages. Ça, c'est une mauvaise conception de la République démocratique du Congo. Quelle est cette forêt où il n'y a pas un seul citoyen congolais? Donc, toutes les forêts du Congo sont habitées par les communautés locales et par les peuples autochtones. Et dire qu'on est en train de les pousser dans les forêts loin des villages, ça c'est faux et archi-faux. Et d'ailleurs, voilà pourquoi nous pensons qu'effectivement, il est important de soutenir notre armée, mais surtout des stratégies pour limiter les dégâts collatéraux et surtout les cadriers, au lieu de les disperser encore là où ils ont la chance de survivre avec l'exploitation des ressources naturelles. Aujourd'hui, il y a des inquiétudes au sein de la population civile qui pensent que l'absence de la MONUSCO, considérant les rapports qui ont été rendus publics par plusieurs organisations nationales et internationales, puis l'implication de certains acteurs de forces de sécurité dans l'exploitation des ressources naturelles, ça risque encore de rebondir et de recommencer. Donc il est important que les mariages puissent rapidement être rétablis entre la MONUSCO et nos forces armées, mais aussi il est très important que les stratégies de sécurisation des espaces conquis soient bien peaufinées. Parce qu'on a déjà noté des cas au niveau du Sud Kivu dans les territoires de Mwenga où il y a eu des attaques sporadiques des FDLR et pourtant c'était dans des villages déjà libérés.
Voilà, vous avez parlé, vous avez exprimé certains souhaits, notamment limiter les dégâts collatéraux, soutenir les FRDC, rétablir la coopération entre la MONUSCO et les FRDC dans ces opérations. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour éradiquer définitivement la menace FDLR en République démocratique du Congo?
Bon, nous pensons qu'il faut que les FRDC puissent y aller jusqu'au bout, ça c'est la première recommandation, mais ils vont aller, la guerre sera menée jusqu'à Zakan pendant que nous avons encore le processus électoral qui nous attend. Est-ce qu'on va organiser les élections pendant que nous sommes dans les conflits dans ces contrées-là? Donc du coup, à un certain moment, on sera obligé de faire un cessez-le-feu. Or, le cessez-le-feu permettra encore à ces FDLR-là de se réorganiser. Il y a les FDLR qui sont en train d'aller du côté du Katanga Nord, donc de Kalemi. Et là, on sait qu'il y a des espaces où vous pouvez marcher pendant 3 jours, 4 jours. Vous n'avez même pas vu un policier. On ne peut pas voir même un seul policier ou un militaire. Donc, ils vont encore se rétablir, se réorganiser. Et surtout qu'on sait qu'en République démocratique du Congo, et surtout à l'Est, c'est facile de trouver les armes et les munitions que les haricots. Donc, ce sont des rapports qui existent. Donc, il faut tenir compte de tous ces aspects-là pour pouvoir espérer faire un bon travail. Mais du coup, nous saluons l'engagement de nos militaires. Nous les voyons très engagés quand ils sont en train de traverser les villages. Mais ce qui manque, ce sont les stratégies pour les accompagner et surtout aussi la sensibilisation. Il est important que les opérations soient accompagnées par la sensibilisation de la population sur la nécessité ou bien l'importance du rétablissement de l'autorité de l'État, mais aussi sur rassurer un peu la population, parce qu'il y a des compatriotes qui ne veulent pas rentrer parce qu'ils pensent qu'il y a toujours cette menace-là qui pèse. Donc il faut rassurer la population à travers les sensibilisations que non, faites confiance, collaborez avec les militaires, rentrez dans vos villages, que les FDLR ne viennent pas récolter vos, ne viennent pas tendre vos récoltes dans les champs à votre absence.
Monsieur le gouverneur Julien Paroukou, que faut-il pour éradiquer définitivement la menace FDLR en RDC? Vous avez suivi Descartes Pongé, président de la société civile du Sud Kivu, qui pense que les FRDC doivent aller jusqu'au bout de leur logique, et qui aussi prône la sensibilisation de la population, et aussi que l'on puisse rassurer cette même population.
Oui, moi je pense que le peuple congolais connaît ma position. J'ai toujours privilégié l'option militaire. Même à l'époque du M23, j'étais l'un des grands défenseurs de l'option militaire. Moi je crois que contre les FDLR aujourd'hui, tellement qu'ils n'ont pas voulu accepter la reddition volontaire, la seule option qui reste, elle est militaire. Mais une fenêtre que moi je voudrais ouvrir, c'est que je voudrais bien proposer au ministère en charge des questions de l'intérieur de devoir ouvrir un temps de transit des réfugiés rwandais. Parce que, avec la pression qui est exercée sur ces FDLR, il y en a qui ne savent pas où aller. Et si on ouvre un camp de transit dont la durée de séjour ne peut dépasser 48 heures, on peut bien évidemment récupérer la plupart des gens qui craignent les opérations. Parce que, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, de janvier à aujourd'hui, nous avons réussi à récupérer 820 Rwandais qui ont été rapatriés chez eux. Donc je crois que l'option militaire reste la seule et les forces armées devront poursuivre pour se rassurer que tout l'espace est contrôlé. Comme il n'y a plus d'obstacles, comme à l'époque du CNDP et du M23, qui étaient des forces qui s'interposaient entre l'armée congolaise et les FDLR, et bien aujourd'hui l'armée congolaise est en face d'une seule menace, à savoir les FDLR, et donc pour moi, il est très facile de devoir éradiquer cette force-là. Elle s'enfonce dans les forêts, il n'y a nulle part où notre armée est incapable d'arriver. Et je demande à la population de Rutshuru, à la population de Masisi, à la population de Walikale, à la population de Sud Lubero, qui me suit, parce que je sais qu'elle est nombreuse, de pouvoir accorder tout le soutien à nos forces armées, de dénoncer toute infiltration dans les villages, pour que, au moindre signal de quelqu'un qui s'infiltrerait dans un recoin de nos localités, eh bien que l'armée le prenne en charge et que nous nous rassurions qu'effectivement, nous sommes restés au nord Kivu uniquement avec des Congolais et non avec des infiltrés qui veulent nous déstabiliser.
Monsieur le gouverneur, nous sommes presque à la fin de l'émission. Un message à Swahili, à l'endroit des populations du sud du nord Kivu, ça sera aussi votre conclusion.
Ndio tunawaelezea wandugu wa baba wote wa Masisi, wa Likale, Rutshuru na Lubero ya kusini ya kwamba kitu kikubwa tunachowaomba ni kuweza kupatia support jeshi la kwetu, ili tukitambua hata mtu mmoja ambaye anaitwa Munyarwanda ambaye ametoka Rwanda anatafuta kujipenyeza katika eneo za kwetu, tuweze kumtoa kwenye jeshi la serikali ili jeshi liweze kumkamata aweze kurudi kwao, nasi tubaki na amani tufanye kazi yetu ya maendeleo.
Merci professeur Hassan Mwaka, que faut-il pour éradiquer définitivement la menace FDLR en RDC? Il y a des experts qui estiment qu'il suffit d'une volonté de la part des gouvernements de la région des Grands Lacs pour que cette question soit solutionnée définitivement.
Oui, je crois qu'il y a à la fois la question de la volonté, mais la question de la nature d'abord des FDLR, je l'ai dit, ce sont des sujets du droit international et la solution à trouver dans les relations internationales, mais aussi là où ils sont, c'est-à-dire là, il y a une première batterie de solutions qu'il faut retrouver au niveau national, et comme le gouverneur venait de le dire, il y a une solution militaire. Nous sommes tout à fait d'accord, mais ça doit être accompagné par un grand travail diplomatique, parce que le Congo a signé une multitude de papiers avec des pays voisins et avec la communauté internationale, il doit y avoir un effort pour faire respecter ces papiers tant par le Congo lui-même que par les pays voisins. Sur le plan international, la solution est aussi militaire. La communauté internationale doit accompagner le Congo militairement pour défaire ces FDLR. Et il doit y avoir une pression internationale sur Kigali pour que la porte soit ouverte avec les réfugiés et tous les FDLR rentrent bonnement au Rwanda.
Descartes Pongé, votre conclusion?
Oui, ma conclusion, c'est qu'il faut d'abord une assistance aux populations qui sont en train de fuir la guerre, mais aussi il faut la sécurisation des espaces. Parce que vous avez suivi que du côté du Nord Kivu, les FDLR ont attaqué encore même l'opposition de FRDC. L'autre aspect que je voulais très rapidement soulever, peut-être en termes de conclusion, il faut consolider aussi la cohésion interne au niveau de nos forces armées, que des questions, par exemple, des questions minières ne viennent pas diviser les militaires, par exemple, aussi, si vous y a une tentative de fraude des minéraux.
Merci.
Et il y a quand même donc, ce sont des situations comme ça.
Merci, on a compris le message et c'est la fin de l'émission, malheureusement. Merci, c'est la fin de l'émission. Merci à Héritier Tsedekala qui était à la technique et à toute l'équipe Dialogue entre Congolais sous la supervision de Ben Kabamba, devant ses micros, Guy Maté. Merci et bonne suite du programme sur Radio Capitale.